Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. On reprend nos droits et on se régale depuis le début de semaine. Vraiment, l'actu, beaucoup d'actu, et puis on a hâte de revoir la Ligue 1, reprendre ses droits. Donc ça arrive, vous inquiétez pas, vous trépignez un peu. On est là pendant 2 heures, on va se régaler parce que vous allez voir l'équipe, elle est top. Comme tous les jours, de toute façon, j'ai vraiment de la chance d'être entouré de ces membres-là. Incroyable. Ils font, c'est des cadors, tous des cadors. Ils font le football. Benoît Boutron, salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Pas Benoît, hein, mais ça va Benoît?
Ça va, écoute, écoute. Bah, parfois je trouve mes analyses plus pertinentes que certains. Mais... Ah. Ouais.
Bon, bah, on va voir le casting, vous allez vous poser la question. On est avec le dinosaure Jean-Michel Larquet. Ah, salut Jean-Mi.
Là non.
Bonsoir messieurs, bonsoir.
Bonsoir Jean-Michel.
Ah, Jean-Mi.
Tout va bien, merci.
Bon, merci. Ouais. Là non, là c'est sûr que non.
On est avec l'homme de province, c'est Stevie. Stevie Savidan. Salut Stevie.
Là. On dit pas l'homme de province, on dit l'homme de la province.
Là, je me dis peut-être que oui. Sur le niveau d'analyse.
L'homme de la province.
Bah oui. Parce qu'il y a, ouais, parce que je suis dans la province en général.
Ouais. D'accord.
Voilà, c'est tout.
Ouais.
Jean-Michel, tu peux nous aider à comprendre du coup?
Non, c'est au-dessus de mes moyens. Ça, on le sait, mais bon,
c'est pas grave, on peut t'expliquer. Donc en fait, la province, en fait, c'est tout ce qui est en dehors de Paris et des grandes villes.
La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre.
C'est pas faux. Il faut toujours une petite citation comme ça.
T'as raison, Stevie, c'est ce qui fait ton charme.
Non, c'est Jean-Michel qui a raison.
Quelle culture, c'est beau.
On a un grand Roten sans flamme, on vous l'a dit, avec plein de bons sujets. Évidemment, le sujet incontournable, c'est le Maroc. Le Maroc qualifié pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. À 19h30, Younes Belhanda va nous rejoindre. Est-ce que le Maroc a fait le plus dur hier? Avec cette qualification.
Ah ouais, ça a tremblé, je te rassure.
Il n'y a pas que le téléviseur qui a tremblé hier.
L'immeuble a failli se casser la gueule à Port-Saint-Cloud.
C'était long hier.
Il penchait, je pensais qu'il y avait une tempête.
Il y a eu un séisme.
Et le pire, et Jean-Michel et Steve, le pire, c'est pas ça, c'est que t'essayes de le joindre pour autre chose. Parce que moi, je prépare une émission et j'ai envie qu'il soit investi. Et il me répondait pas parce que sa femme lui a dit non, tu vas nous porter la poisse.
Non, tu réponds pas.
On l'embrasse, Sam.
Je me suis fait guigner. On était avec Jean-Michel. On suivait le trophée des champions. Pierre Dorian m'envoie bravo, c'est mérité à la 89e minute. J'ai eu le malheur de répondre. Bah voilà, Marseille s'est fait éliminer au tir au but. Je ne réponds plus pendant un match, Jérôme. Tu m'appelles pas pendant le match, tu m'appelles après si tu veux.
Mais non, mais Marseille-Paris, t'es objectif, t'es neutre. Là, c'est Maroc, c'est normal, c'est une histoire de famille.
Bon, les deux.
Ah bon? Mais qu'est-ce que c'est que cette émission que je fais, moi? Il faut être objectif.
Bon, alors.
Moi, à Paris-Marseille, je
donne. T'es pas les touchants,
je suis neutre. Après, si c'est Paris qui gagne à chaque fois, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Une légende du PSG sera là, à 18h45.
Et quoi que même quand Paris perd, c'est Paris qui gagne.
Ouais. Attendez, il y a une légende du PSG qui sera.
Mamadou Sakho sera avec nous.
Ah, bah
18h45, il vient d'annoncer sa retraite officiellement. Mamadou Sakho.
Il a reçu un trophée.
Il a reçu un trophée.
Je vais l'appeler.
Bah voilà, exactement.
Normal,
donc, nous ne loupons pas ce grand moment. Et puis, on aura un très beau procès à 18h30.
Il est meilleur passeur de l'histoire.
On va ouvrir le procès de tous ceux qui nous bassinent avec le beau jeu en sélection. Il y en a marre de cette histoire. Ah oui, mais on ne joue pas tous comme l'Espagne, tout ça, etc. Un membre de la Dream Team les défend, tous ceux qui nous bassinent avec le jeu. D'autres les attaques. Vous aurez la réponse donc à 18h30. Et puis l'événement sur RMC, c'est l'expérience RMC autour de la Ligue des Champions la semaine prochaine. Marseille-Liverpool, mercredi 21 janvier, 21h au Vélodrome.
Bon match. Ça,
c'est un bon match.
Ah, voilà.
21h. L'expérience RMC,
c'est deux places. L'Orange Vélodrome va bouillir.
Ah ouais, ça va être dingue. Deux places pour le match, deux maillots collecteurs de l'OM, Marseille Monumental. Dès que vous entendrez ce signal sonore, vous aurez 5 minutes pour envoyer OM au 732-16. OM au 732-16.
Allez-y, hein. OM favori en plus, hein, parce que vu qu'ils ont trimballé le champion d'Europe.
Ah bah oui, pour moi, il n'y a pas photo.
Ah ouais.
Allez tout de suite, Jérôme, justement. Pourquoi changer une équipe qui gagne alors?
Tu vas rester sur la touche si tu bouges trop lentement, c'est la.
La réussite d'un changement stratégique dépend d'une part de son rythme de mise en œuvre.
Notre mercato reflète l'équipe, on n'a pas besoin de beaucoup de joueurs.
Mais aussi de l'importance des transformations qu'il véhicule pour l'entreprise.
On est surtout dépendant de l'incurie
de
nature incrémentale, il est mis en œuvre pas à pas, par étapes successives.
Une équipe, c'est comme un puzzle, il faut que les pièces y font clic.
Le changement est susceptible d'emporter l'adhésion, en conséquence d'être moins traumatisant.
J'en parle même pas parce qu'on en parle.
Et certains aspects méritent d'être mieux mis en cohérence.
Aucun regret sur le mercato d'été.
Zéro regret, on a fait ce qu'on a pensé à faire.
Tu sais, en général, quand tu fais deux fois la même connerie, à un moment donné, c'est soit t'as pas appris, soit t'es...
Soit quoi ?
T'as compris.
C'est la course, on a tous du mal à suivre.
C'est donc la stratégie du Paris Saint-Germain depuis l'été dernier, la fin de saison historique réalisée par le club. Conserver les joueurs présents dans l'effectif et limiter le nombre de recrues. Deux joueurs de champ l'été dernier, un gardien de but forcément, puisque Lucas Chevalier a remplacé Gianluigi Donnarumma. Paris a souffert des blessures sur les premiers mois, on n'a pas arrêté d'en parler dans Rotten sans flamme. Aujourd'hui, un seul titulaire manque à l'appel, c'est Achraf Hakimi qui va faire la finale de la CAN avec le Maroc dimanche. L'enjeu du moment, c'est plutôt de prolonger des joueurs comme Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Fabien Ruiz ou encore Seni Mayulu. Parlons-en avec Arthur Perrault qui nous rejoint. Salut Arthur.
Salut messieurs. Bonsoir à toutes et à tous.
Salut Arthur.
C'est toi qui as la réponse à cette question. Est-ce que Luis Enrique est fermé à l'idée de recruter de nouveaux joueurs cet hiver?
Eh bien, pas totalement. Il faut dire que le début d'année est loin d'être évident à Paris. On le rappelle, hein, des blessures à la chaîne encore aujourd'hui avec João Neves. On l'a appris, forfait pour Lille. La fatigue accumulée donc et la défaite face au Paris FC. Le coach parisien l'assume aujourd'hui face aux médias. Paris reste à l'affût de la moindre opportunité lors du mercato hivernal.
Bien sûr, on est ouvert. On est ouvert pour le temps. On est ouvert à profiter aucune possibilité. C'est notre manière de gérer ça. Mais ce que j'ai vu de l'équipe, c'est pour moi très positif. On est ouvert, on est prêt pour aucune possibilité, mais sans aucune précipitation.
Surtout que le marché des transferts s'achève le 2 février prochain et qu'à cette période de l'année, difficile de trouver un joueur capable de s'intégrer rapidement au groupe parisien, comme cela avait été le cas notamment avec Vishak Varadzreli.
Merci Arthur, la une de Rotten sans flamme. Est-ce que le PSG a raison de ne rien changer? 32-16 pour participer avec nous. Avant ton avis, Jérôme, le direct du soir sur RMC, c'est le handball avec le début de l'Euro pour l'équipe de France masculine face à la République tchèque. Salut Nico Paolorsi.
Salut les amis, salut à toutes et à tous. Et autant à Oslo, il fait très froid dehors avec des températures négatives, autant l'équipe de France est en surchauffe pour lancer son championnat d'Europe, puisqu'après 5 minutes de jeu, les Bleus mènent déjà 6-0 face à la République tchèque.
Ah ouais,
le championnat d'Europe.
Ah,
mais c'est pas mal.
Ah ouais, c'est pas mal les Tchèques.
Les Tchèques, c'est pas si mal que ça. L'Euro, Jérôme, c'est la compétition la plus dure à gagner. Il y a une densité assez dingue. Et c'est surtout la France qui est en train de faire un super début de compète. Les Bleus qui défendent leur dernier titre. Ils sont tenants du titre de ce championnat d'Europe et c'est le dernier trophée qu'il leur reste. Donc voilà, les Bleus pour l'instant sont bien partis dans 7 euros. 5 minutes de jeu, 6 buts 1.
Ils nous font pas douter, ces Tchèques.
Nico.
Oui, Steve.
Non, mais t'as joué un peu au paddle, tu t'es entraîné là-bas ou pas?
Oh là là.
Non, j'ai fait la semaine dernière, tu sais, on a fait la doublette ensemble.
Un ralentisseur toute la soirée.
Ah ouais, non, mais.
Un ralentisseur. Je suis un rond-point.
Bon. Vous parlerez paddle dans un podcast, hein, si vous voulez.
Mais c'est intéressant.
Parlons donc du Paris Saint-Germain.
Ça part bien, l'émission part bien.
C'est pas mal.
Allons-y, Jérôme. Est-ce que Paris, selon toi, a raison de ne rien changer, de ne pas recruter cet hiver comme ça a été fait l'été dernier, un recrutement très, très limité pour le Paris Saint-Germain?
Mais en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est de tirer déjà des plans sur la comète à mi-saison et de se dire, avec tous les blessés qu'ils ont eus, avec les suspendus, la CAN, de se dire qu'il y a quand même des circonstances atténuantes qui ont, si tu veux, œuvré sur les performances de l'équipe. On n'est pas sans savoir et on l'a tous dit parce qu'on essaye d'être le plus objectif possible avec le PSG. En effet, il y a eu des victoires poussives. Il y a eu très peu de matchs complets de la part du Paris Saint-Germain comme quasiment tout au long de l'année dernière et surtout sur les 6 derniers mois. Ça, c'est la réalité. Mais est-ce que parce que depuis 6 mois, il y a beaucoup de blessures, qu'ils se cherchent un peu, que en effet l'état de forme de certains laisse un petit peu à désirer par rapport aux performances incroyables de l'année dernière, le niveau d'exigence qu'ils avaient mis, tous, ils étaient sur une dynamique incroyable. Je pense qu'on a joué au foot de haut niveau. Le plus dur, c'est la constance, la régularité, mais ça arrive. À tous les joueurs, ça arrive. Le problème, c'est qu'au PSG, il s'est accumulé beaucoup de choses, comme je viens de le dire, et qu'il y a des joueurs qui, on attendait, qui continuent leur progression, et là, je parle des jeunes joueurs. Mayulu est l'exemple type. Mayulu, moi, l'année dernière, j'ai adoré ce joueur. La progression, à chaque fois qu'il rentrait, il faisait des différences, que ça soit sur des petits matchs ou sur des grands matchs. La preuve, c'est qu'il marque en finale de la Ligue des Champions. Ce mec-là, il a passé plusieurs caps en quelques semaines. C'est la réalité. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est retombé. Mais c'est pas grave. C'est pas pour autant que tu dois lui mettre dans les pattes un mec qui a déjà eu des repères en Ligue des Champions ou qui a un certain âge avec plus d'expérience et qu'on va te dire tiens ce mec là il va faire mieux que Maiulo sur les 6 premiers mois peut-être.
Après, c'est l'éternelle question, est-ce qu'il joue parce qu'il comble une carence ou parce qu'il a le niveau de jouer
dans cette équipe? Mais il joue parce que la politique du club voulait pas le savoir, donc ouvrez grand vos oreilles. Voulait pas savoir que le club, il y a 3 ans, ils ont pris une autre trajectoire dans la politique direction, du club. Ouais. C'est-à-dire que, en effet, il y a des joueurs expérimentés. Il y en a encore dans l'équipe, et heureusement, parce que eux, c'est la sécurité, si tu veux, sur l'ambiance du vestiaire et sur la qualité des matchs. Et puis à côté de ça, t'as de la jeunesse qui est là pour se développer, pour apprendre vite, parce que dans un club comme le PSG, tu dois apprendre vite. Je pense qu'ils l'ont bien fait l'année dernière, parce que ils ont tout gagné. Ils ont été champions d'Europe. Et donc aujourd'hui, ces mecs-là sont récompensés par des prolongations de contrat, par de la présence plus régulière dans l'équipe première. En effet, ça a amené un peu des fluctuations dans les performances, mais c'est pas pour autant que ces mecs-là, il faut les renvoyer au placard et dire bah non, maintenant on va vous ramener des mecs d'expérience, parce que là tu rentres dans une autre politique du club et le club veut pas ça. Donc moi, je vous dis, soyez patients. Même moi, j'essaye de mettre les formes quand le PSG fait des contre-performances comme contre le PFC. Mais il faut aussi dire quand ils sont pas bons et quand il y a des attitudes qui me laissent présager que ça va pas forcément être le ciel bleu dans quelques mois. Mm-hmm. Mais ça, on est en droit de le dire. Mais c'est pas pour autant qu'on va tirer des plans sur la comète et envoyer ces mecs-là parce que les 6 mois ont été moyens et que là, vu qu'ils ont été moyens, maintenant vous allez dégager. Mais l'année dernière, ces mecs-là, avec cet effectif, ils ont tout gagné. Je vous répète,
oui,
ils n'avaient pas besoin de. Mais d'accord.
Alors vas-y, Jean-Michel.
Je n'arrive pas. On leur demande pas que ceux qui sont là, on leur demande pas, et notamment les jeunes, puisque tu en as parlé. Enfin, des jeunes, tu en as parlé, mais tu en as parlé d'un, hein, me semble-t-il.
Oui, j'ai parlé des jeunes. J'aurais pu en mettre d'autres, mais
qui tu veux mettre?
Tu peux mettre Njantou qui a débuté au début.
Mais c'est toi-même qui a dit que c'était un feu de paille. Donc
oui, attention. Bon, ce que je veux dire, c'est que
tu peux. Vas-y. Ne mets pas des joueurs dont tu sais que tu peux pas compter sur eux pour jouer au niveau du Paris Saint-Germain. Bon, parce que on parle là quand même du champion d'Europe et d'un des meilleurs clubs, si ce n'est et d'un des meilleurs clubs en Europe et au monde. Bon, je veux bien, mais Jérôme, on parle pas de virer les gars qui y sont. Il y en a déjà qui ont été virés. Il me semble qu'il y a eu
pas beaucoup qui ont été virés
de départ. Alors, ce n'était pas que des titulaires, je te le dis. Il y a eu Asensio qui est parti. Qui c'est qui est parti à l'intersaison?
Skriniar.
Donnarumma.
Skriniar,
c'était soi-disant pas mal. Asensio qui est parti.
Skriniar, pas mal.
Donnarumma. Comment?
Skriniar, pas mal, tu m'as dit.
Où est-ce que tu veux en venir, Jean-Michel, en fait?
Ces mecs-là ont été remplacés, Jean-Michel.
Je pars du principe que même une équipe qui gagne, il faut lui apporter du renouveau. Même une équipe qui gagne, il faut lui apporter une nouvelle énergie. Alors, c'est à minima, mais c'est pas. Alors, l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux évidemment parier sur quelques jeunes qui veulent arriver. Maiulu, Mbaye, Njantou un peu moins. Et puis. Tu peux parier sur un ou deux joueurs de grande qualité.
Oui, mais si tu les prends, les jeunes vont plus jouer.
Enfin, t'es un grand club, Jérôme. Si les jeunes sont vraiment talentueux, ils vont quand même.
Si tu prends,
en compte le nombre de matchs.
Arrête avec tes bêtises avec le nombre de matchs. Ah bon, la preuve, ils ont déjà plus la Coupe de France, donc le nombre de matchs et quoi.
Pourquoi ils ont pris à l'intersaison, ils ont pris Zabarni
pour remplacer Skriniar.
Et ils ont pris Lucas Chevalier pour remplacer
Donnarumma. Voilà, c'est ça. Un joueur de champ, pas deux. Ouais. C'est ça.
Ils ont pris ces joueurs-là parce que c'était des joueurs qui étaient censés.
Ce n'est pas suffisant.
Mais le reste, ils sont restés, Jean-Michel. Le reste des joueurs sont restés.
Mais non, il y en a qui sont partis. Mais alors,
qui?
Alors je ne veux plus entendre.
Mais qui?
Je ne
veux mais plus qui est parti? Dis-moi des noms. Des joueurs,
des joueurs qui de temps en temps pouvaient te donner un coup de main.
Mais c'est
peut-être
qui?
Peut-être que l'effectif. Mais non, mais tu n'es pas obligé. Je te
tu
parle
me parles d'Asensio sont...
Mais je ne te parle pas de ceux qui sont partis. Je te parle d'améliorer l'équipe actuelle.
Mais là, ils améliorent l'équipe avec de la jeunesse, c'est leur politique.
Il y a Solaire, ouais, ouais. Asensio, Colomoyni. Mais bon, après, Colomoyni était prêté les 6 derniers mois.
Si les jeunes qui ont 19 ans s'appellent Mbappé, Doué, je veux bien. Mais les jeunes qui ont 19-20 ans, ils ne s'appellent pas Mbappé, ils ne s'appellent pas... Ils s'appellent pas Doué, ils ont pas ce niveau-là.
Mais l'année dernière, il s'appelait Mayulu, par exemple. Est-ce que t'as été surpris de la performance? Parce qu'avec Mayulu l'année dernière, Jean-Michel, qui a beaucoup joué quand même, ils ont été champions d'Europe.
Oui, mais c'est pas grâce à lui.
Même quand
oui, tu dis qu'il faut rajeunir, il faut changer. Pas rajeunir, mais rafraîchir.
Il faut apporter tout le temps une petite dose.
Oui, mais ça se vérifie pas. Ça se vérifie pas tout le temps ce que tu dis, Jean-Michel. Parce
surtout
que
mercato d'hiver.
Si tu veux, regarde.
Si on avait la vérité, tout le monde l'a.
Non, mais par contre, il y a une vérité. Il y a une vérité, Jean-Michel, et tu le sais aussi bien que moi, parce que t'as vécu avec des groupes, un groupe de joueurs avec un entraîneur, avec le même staff. C'est une durée de vie à peu près de 2-3 ans. On est d'accord avec ça? T'es d'accord avec ça? Sans forcément ramener un petit peu de fraîcheur, comme tu le dis. Ils sont dans la troisième année, le PSG. Ils sont dans cette troisième année. Et en plus, ça a été rafraîchi. Alors, après qu'on soit d'accord ou pas, avec de la jeunesse, des jeunes qui viennent du centre de formation. D'accord? Et l'année dernière, avec Kvaratskhelia. Parce que l'année dernière, ils ont quand même pris Kvaratskhelia.
Oui, ça a changé beaucoup de choses.
Jérôme. Je vais juste te dire, tu me parles de Mayulu et tant mieux, tu aimes ce joueur, il n'y a aucun problème. Et tant mieux pour lui, et on lui souhaite le meilleur. Tu sais combien il y a de temps il a joué à partir des huitièmes de finale de la Ligue des
Mayulu
de Champions League. Mayulu, je me pose la question à Jérôme.
Combien?
Je ne sais pas, pas beaucoup. Il est rentré en finale.
15 minutes.
Il a dû rentrer.
Il a joué 6 minutes, Jérôme.
Ah, bah il a réussi à marquer un but hein, quand même.
Oui, mais 6 minutes. Tu ne peux pas dire qu'il a compté sur les moments décisifs du PSG.
Franchement, de.
Bon, Steve, qu'est-ce que tu en penses alors?
Bah, moi, ce que j'en pense, et ça va vous étonner, mais moi, je suis en phase avec la conférence de presse de Luis Enrique, en fait.
Okay.
En fait, il dit on va pas gagner tous les trophées, on va pas gagner tous les matchs, tous les ans et tout. Et en fait, moi, j'ai compris lors de cette conférence de presse, j'étais pas parti là-dessus, puis j'ai compris pendant cette conférence de presse, c'est qu'en fait, lui, il a une vision claire, en fait, il a une vision à long terme. En fait, nous, on est frustrés très souvent du jeu, des fois des résultats, des contre-performances. Mais en fait, sa philosophie, elle est très claire. Elle est assumée. Et comme je dis, elle est frustrante, en fait, pour nous qui regardons le PSG. Alors, peut-être même plus pour ceux qui sont les fans du PSG. Bah, en fait, sa stratégie, elle est très simple. Il veut construire, année, mois après mois et année, un effectif cohérent qui est en phase avec ce que lui pense du football. Pourquoi il ne recrute pas, comme tu disais tout à l'heure, Jean-Michel? Pourquoi ils recrutent pas des top players qui ont énormément d'expérience? Parce que ça va être très dur à façonner. Parce que il va y avoir beaucoup plus d'ego. Pourquoi il amène pas ces joueurs-là, cette fraîcheur, que ça soit au mercato d'été, ou là où je suis un peu d'accord, c'est pas de prendre non plus beaucoup de joueurs, voire des très grands joueurs au mercato d'hiver, parce qu'on a encore moins de certitudes. Mais parce que pour inclure ces joueurs-là, dans un système de jeu, un collectif, c'est très compliqué avec sa philosophie de jeu. Pourquoi au final ils n'ont pas pris de jokers médicaux pendant ces blessés qu'ils ont eu sur août, sur septembre, ces déconvenus, peut-être un peu de baisse de régime en termes de résultats? Parce qu'il veut garder une cohérence, même si le temps va être long à former ces jeunes joueurs, c'est pour lui des joueurs qu'il va former à sa philosophie de jeu. Que je sois d'accord ou pas,
c'est pas un problème. C'est vite un problème avec les joueurs confirmés.
Exactement. Et moi, j'étais pas d'accord avec ça. Et lors de sa conférence de presse, j'ai compris.
Mais non, il s'évite pas un problème avec les joueurs confirmés.
Bah si, il a dit lui-même.
Non, c'est pas, il s'évite un problème.
Quand on parle de backup Hakimi, Benoît,
c'est pas, il s'évite un problème.
Non,
mais c'est pas, il s'évite un problème. C'est qu'il est cohérent en fait avec ce qu'il fait.
Mais c'est incohérent ce que tu racontes, Benoît. Hakimi, tu dis, il a pas de doublure. La preuve, c'est que il est en train de vous fermer votre bouche. C'est que la doublure d'Hakimi, c'est Zahir Emery. Et moi, je dis depuis le début. Je dis depuis le début, il stagnait, voire il régressait au milieu de terrain. Okay. Je pense que son rôle, il est plus sur le côté
droit.
Et puis Jérôme, on va pas se mentir.
Il est bon, Zahir Emery, depuis qu'il joue.
Excellent.
Et Jérôme, donc il est arrière droit.
Benoît, on va être d'accord. Et les résultats, ils sont là quand même. Il y a une domination nationale.
Avec les tout jeunes, avec Mayoulou, avec
Elon Chou, Zahir Emery, il est arrivé.
Écoutez-vous,
Jean-Michel, Zahir Emery, il est arrivé il y a deux ans. Il y a deux ans à peu près, Zahir Emery. Donc, au bout de deux ans, il arrive. Bien sûr qu'il
joue pas six minutes. Il joue pas 6 minutes.
Oui, mais arrête. Jean-Michel, tu joues sur les mots. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que tu fais semblant de pas comprendre. Tu dis 6 minutes en Ligue des Champions. Ok. Je te dis pas que Mayoulou ou les jeunes vont te faire gagner la Ligue des Champions. On est d'accord que l'équipe type du Paris Saint-Germain qui a gagné la Ligue des Champions, il y a pas de jeunes dans cette équipe. Est-ce que les joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions sont encore là? Oui. Est-ce que les joueurs qui ont gagné cette Ligue des Champions et qui sont encore là ont encore fin de Ligue des Champions? Moi, je te dis oui.
Bah, on sait pas.
Mais tout ça, je ne le discute pas, Jérôme.
On sait pas.
Je te dis que si
tu veux se blesser sur la deuxième partie de saison,
si tu veux maintenir le niveau et si tu veux améliorer, et je vous ai entendu, je veux construire, je veux ceci, je veux cela, et si tu veux améliorer ton groupe ou le maintenir au haut niveau.
Tu rajoutes de la concurrence.
Alors?
Non, tu.
Bah si, c'est ce que tu me dis. Tu recrutes matchs, un ou deux mecs.
Et là, je te renvoie.
Vu que Mayoulou, par exemple, pour parler de Mayoulou, parce qu'il n'y a pas que lui. Allez, mais là, on parle de Mayoulou. Tu me dis, il a joué 6 minutes en Ligue des Champions. Oui. Ok, d'accord. Et en plus, les 6 plus belles minutes, parce que c'est en finale en marquant un but. Mais en effet, cette année, Mayoulou, j'imagine qu'il aura envie, et ça a été le cas sur les matchs de Ligue des Champions déjà du Paris Saint-Germain, les 6 premiers, où il a eu beaucoup de temps de jeu, il aura envie de jouer des matchs à élimination directe. Parce qu'il a un an de plus.
Mais si,
tu prends un joueur de plus ou un deuxième, c'est-à-dire un milieu de terrain, par exemple, avec de l'expérience, pour suppléer Joao Neves, Vitinha ou Fabian Ruiz. Ok, d'accord. Mais ça veut dire que ces mecs-là, le mec qui va arriver ou les deux qui vont arriver, ils vont prendre la place.
Ah, bah, ça, c'est le principe d'un grand club. Eh oui.
Mais quel grand club?
Non, l'année, pas forcément
l'année,
un grand club.
L'année dernière, avec cet effectif-là, c'est ça que vous voulez pas entendre et que vous êtes incohérent dans vos propos. C'est qu'avec cet effectif-là, certainement que toutes les planètes étaient
avec
bien alignées.
Avec 100% de réussite et pas de blessure dans les moments.
Eh ben, d'accord. Eh ben, écoute, alors peut-être, est-ce que toi, t'as la réponse?
Non,
est-ce qu'ils vont se blesser ou pas? Mais je l'ai pas plus que toi.
Mais
est-ce que c'est dramatique s'ils se reblessent? Malheureusement, je leur souhaite pas aux joueurs. Et qu'ils se reblessent et que le PSG sorte en 8e de finale de Ligue des Champions.
Ah, ben, ça serait décevant, bien sûr.
C'est décevant. Mais c'est pas dramatique pour autant.
Accueil Demba, supporter parisien, Jérôme.
Salut Demba.
Salut l'équipe.
Salut Demba.
Bienvenue Demba.
Bonne année, bonne santé, plein de bonnes choses à tout le monde.
Bah, tu as raison, toi aussi. La santé, c'est la base. Et des bonnes émissions. Qu'on transpire pas trop. Voilà. Bon. Demba, alors, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que toi, déjà, l'effectif, il te convient? Et est-ce que t'aurais recruté si t'avais été à la place de Luis Campos et Luis Enrique?
Et Luis Enrique, ouais. Moi, je pense que si j'avais été à leur place, quoi, j'aurais rajouté ne serait-ce que 2-3 joueurs. Histoire de casser le truc, parce que les joueurs, il y en a certains sont dans un confort. Ils disent, moi, je sais c'est que vrai. Personne ne va me prendre la place. Vous parlez tout à l'heure de Mayoulou, mais par exemple, Vitinha, lui, personne ne peut lui prendre sa place. Hakimi, pareil, personne ne peut lui prendre sa place. En fait, je pense qu'ils auraient dû recruter, histoire de créer encore plus une concurrence et d'améliorer l'effectif, et d'améliorer les performances individuelles des joueurs. Et ça, je trouve ça dommage. C'est-à-dire que là, les joueurs sont tous dans un confort.
Pas faux.
Mais en fait, Demba, c'est possible.
Il vaut mieux s'appeler Demba pour convaincre Jérôme.
Non, Demba. Mais non, mais je parle calmement, Demba, parce que. Non, Demba. Mais tu peux avoir raison. Et en effet, et je vais même dans votre sens et dans ton sens, Demba. Je trouve que sur certains matchs, sur la première partie de saison, et le match contre le Paris FC en Coupe de France, ce n'est qu'un match de Coupe de France, mais à domicile, ça fait quand même tâche de perdre comme ça. Peu importe, ils l'ont fait. Je pense qu'en effet, il y a un peu de suffisance. Ils en font pas assez. Ils sont sur un faux rythme. Bon. Et peut-être qu'en effet, les joueurs qui sont censés jouer la Ligue des Champions, ils se disent de toute façon, même si je suis moyen, je jouerai les matchs de Ligue des Champions. Ok, il n'y a pas de problème. Bon. Sauf que allez, faut y aller. Là, ce que vous avez oublié, c'est que si ces mecs-là arrivent à appuyer sur le bouton et à se dire maintenant on remet le bleu de chauffe et on va faire comme l'année dernière, on va écraser tout le monde, on va en mettre plus.
Oui, tu peux dire.
Et ben moi je dis juste que ces joueurs là ils ont gagné ce crédit là si tu veux, ce confort là, bon, l'année dernière en nous.
Jean-Michel lève le doigt. Vas-y. Long, le palmarès il long,
et oui,
le titre de champion d'Europe il long.
Merci Demba de 32-7.
D'accord. À bientôt. Comment tu prolonges les jeunes si tu leur dis on va ramener des joueurs d'expérience et vous allez moins jouer?
Quand tu dis à partir du moment où ils vont appuyer. Alors je sais pas si c'est aujourd'hui ou hier, j'ai lu un truc sur un joueur. Il suffisait qu'il se réentraîne et puis qu'on appuie sur le bouton pour que bientôt il retrouve l'équipe de France.
Ah, Paul Pogba.
Oui.
Mais ça se fait pas comme ça, Jérôme.
Non, mais ça mais il a été à l'extrême. Ça. On parle pas de Paul Pogba. Arrête.
Mais vous-même, Jérôme. Allez, mais vous-même, vous avez dit, il va rejouer.
Vous-même, parce que c'était.
Je rêvais
de ça parce que Paul, je l'adore et le joueur, je l'ai adoré contrairement à toi. Mais en effet, quand allez, tu stop. Sors de 3-4 ans sans jouer, bah la preuve, c'est que c'est très très compliqué.
Allez. Quelle belle musique. C'est le moment d'envoyer OM au 732-16 pour gagner l'expérience RMC. Vos places pour le match Marseille-Liverpool la semaine prochaine, mercredi.
Marseille favori.
On verra. Avec deux maillots collecteurs de l'OM à gagner, des maillots Marseille monumental. N'hésitez pas, OM au 732-16. Point rapide sur le handball avec l'Euro et ce match entre la France et la République tchèque, Nicolas Paul Orsi.
5 buts d'avance pour l'équipe de France, 16 à 11. Les Bleus qui ont déroulé en attaque, ça devient un petit peu plus dur défensivement. On sent que les Tchèques ont trouvé des solutions, notamment en jouant en supériorité numérique. Il reste 11 minutes dans ce match, plus 5 pour les Bleus.
Et dans un instant, le procès de tous ceux qui nous bassinent avec le beau jeu en sélection. A tout de suite sur
RMC. RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h31 sur RMC. On est là, on est bien dans Rotten sans flamme. La deuxième demi-heure, c'est maintenant avec Jean-Michel Larquet, avec Steve Savidan et Benoît Boutron, comme tous les jours. Vous en avez l'habitude, à 18h45 on reçoit une légende du Paris Saint-Germain, Mamadou Sakho, qui vient d'annoncer sa retraite. Et ben, il nous expliquera comment il vit ça. Ça va être un bon moment dans 15 minutes, mais avant on fait un bon procès
autour du jeu en sélection. Le direct, c'est donc le handball, l'Euro qui démarre pour l'équipe de France masculine face à la République tchèque. Nicolas Paul Orsi.
6 grosses minutes avant la mi-temps, les Bleus sont toujours devant, 2-5 buts, 17-12, mais ça commence à se durcir et on voit les rotations bleues là qui sont moins efficaces que l'équipe de départ. Malgré tout, c'est un bon début de compétition dans cet Euro pour les Bleus. Plus 5, 6 minutes à jouer avant la mi-temps.
Merci Nico, en direct d'Oslo, on y va pour le procès.
RMC, Rotten sans flamme.
J'ai vexé des gens. J'ai le président d'Annemasse qui m'a appelé.
Bah, en district.
Il m'a dit, il nous a insultés en nous comparant au milieu de terrain de l'équipe de France. Et je tiens à m'excuser auprès de tous les milieux de terrain de D1 de district d'avoir comparé l'équipe de France au mauvais milieu de terrain de l'équipe de France en Croatie.
Le procès de Rotten sans flamme.
Bonjour Jean-Michel, sur le niveau technique des milieux de terrain de l'équipe de France.
Ouais, je m'en suis pas remis, moi.
Allons-y sur ce débat. Faut-il arrêter avec cette obsession du beau jeu dans le foot de sélection? C'est un reproche qui est fait à Didier Deschamps depuis de nombreuses années, voire depuis son arrivée en 2012. Des critiques qui touchent actuellement le Maroc de Walid Regragui, pourtant demi-finaliste de la Coupe du Monde et qui disputera dimanche la finale de la Coupe d'Afrique. L'exemple régulièrement cité, c'est bien sûr l'Espagne, ce jeu collectif, efficace, esthétique. La sélection espagnole qui s'appuie sur un profil de joueur particulier, notamment ses milieux de terrain techniques et créatifs. Allons-y sur le procès donc de tous ceux qui nous bassinent avec le beau jeu en sélection. On a deux procureurs ce soir. Jérôme Rotten, bonsoir.
Bonsoir.
Et Steve Savidan, bonsoir.
Bonsoir.
L'avocat, justement, de ceux qui nous bassinent, c'est Maître Larquet, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Et le verdict sera rendu par un supporter du PSG au 32-16, c'est JB qui est là. Salut JB.
Bonsoir à tous.
Sois le bienvenu JB.
Salut JB.
Vas-y Jérôme, ton avis sur le foot de sélection, est-ce qu'il faut arrêter d'espérer de voir les sélections jouer comme le Barça?
Non mais en fait c'est un fantasme un peu de supporter, de suiveur d'une sélection ou d'amoureux du foot tout simplement. Mais le foot de sélection déjà c'est pas le foot de club, donc il faut arrêter de comparer si tu veux les rencontres et les grandes compétitions en sélection avec la Ligue des Champions ou les championnats domestiques. Donc ça c'est la première chose. Après, pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas la même approche, c'est pas le même temps de préparation. Les joueurs, ils jouent dans des dispositifs tous différents dans les clubs, et que en général, dans les grandes nations, là, parce qu'on parle des nations qui excellent, on parle du Maroc, on peut parler du Nigeria hier, on peut parler de l'Égypte, du Sénégal pour parler de la CAN. Après, en Europe, on analyse le Portugal, l'Espagne. L'Allemagne, l'Angleterre,
l'Italie.
L'Italie, j'en parle même plus parce qu'ils n'existent pas. Et puis en Amérique du Sud, du Brésil et de l'Argentine, qui est championne du monde. Voilà, en gros, c'est ces nations-là qui peuvent espérer faire tourner le compteur à la Coupe du Monde et remporter la Coupe du Monde. Une fois que tu as dit ça et que tu regardes donc sur toutes les nations que je viens de citer, dis-moi le projet de jeu très clair d'une ou deux équipes de ce chapeau-là. Bah franchement, à part l'Espagne, parce que le jeu à l'espagnol, on est habitué, et le modèle de Barcelone a, si tu veux, provoqué un changement de politique. Oui. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Mmh. Et c'est vrai qu'on l'a senti au début des années 90. Ça a changé début des années 2000. Pareil, et ils sont dans la continuité. Ils ont réussi à tout gagner comme ça. Ils sont un peu retombés après avoir tout gagné là en
2008, 2010, 2012.
Voilà, c'est ça. Ouais. Après, c'est un peu retombé, et puis là, c'est revenu parce qu'il y a une nouvelle génération et ils forment les joueurs comme ça. Et les joueurs en club, tu le vois, le championnat espagnol, tu le vois, t'es pas surpris. Ces joueurs, souvent, passez-va, du jeu léché, c'est assez spectaculaire, c'est pas tactique, c'est pas fermé, tout ça. Nous, que ça soit en France, où on accueille beaucoup de Marocains, pour rebondir sur les critiques sur Walid Regragui, où les Marocains jouent dans des très belles équipes européennes, voire en Arabie Saoudite, pour le projet sportif, et là, c'est sûr que les structures sont différentes. Donc, Walid, quand il récupère un groupe, déjà, la grande force des sélectionneurs qui gagnent, comme Walid Regragui, comme Didier Deschamps, comme le sélectionneur de l'Argentine,
Scaloni,
le but, c'est déjà de bien faire vivre leur groupe, parce que c'est un laps de temps très court qu'ils passent ensemble, et donc il faut qu'ils arrivent à bien vivre ensemble, déjà le bien vivre ensemble, et après à compléter sur le terrain tactiquement ce qu'ils veulent faire. T'as des entraîneurs, et ils ont vite compris, et Didier Deschamps l'a compris, et je finis là-dessus. Non, je finis là-dessus. Il y a des entraîneurs qui ont identifié comment tu gagnais les grandes compétitions, comment tu les gagnes en ayant un bloc solide défensivement. Tu prends pas de but. Parce que si tu ouvres en sélection, en général, tu te fais rattraper. Et tu le vois, toutes les équipes qui ont fait ça, elles se sont fait rattraper, elles n'ont pas gagné. Bon. Peut-être le seul truc, c'est l'Espagne, avec tout ce que je viens de te dire.
Exemple.
Et je finis juste sur le truc, parce que sinon je suis trop long et Steve ne va pas pouvoir parler.
Mais
ce que je veux dire, c'est que après, la grande phrase, il joue pas bien mais il gagne, je comprends pas ce mot là parce que bien jouer au football, bah c'est quoi
que tu viens de défendre.
Non, bien jouer au football c'est quoi? Parce que les joueurs dans un dispositif, ils peuvent s'éclater, c'est d'avoir de la maîtrise dans le jeu, essayer de t'éclater individuellement. Steve. Moi j'ai l'impression que les joueurs du Maroc, ils s'éclatent à jouer comme ça, donc arrêtez de critiquer.
Qu'est-ce
ça sert à rien.
Rajouter, Steve, avant la parole à la défense,
que tout simplement faut pas mettre en opposition l'efficacité et le plaisir, que tout simplement on peut prendre énormément de plaisir tout simplement dans la gagne et simplement dans l'efficacité. Et comme l'a dit Jérôme, il y a une différence entre une équipe de club, donc comme on en a parlé avec Luis Enrique, qui est sur un temps long, et l'efficacité d'une compétition avec une équipe nationale. C'est deux choses totalement différentes, mais dans les deux, on peut se rejoindre sur un truc. Dans le football professionnel, l'efficacité compte, le plaisir, ça vient peut-être après. Moi, je finis juste là-dessus.
Et ben voilà. Parole à la défense, Maître Larquet.
Bon, d'abord, je suis très content que Jérôme ait changé de casquette, mais c'est pas très grave puisque il avait défoncé le
pauvre
Didier Deschamps.
Mais ouais. Et défoncé depuis quand et protégé. Pendant combien de temps? Arrête. Tes accusations.
Laisse-le finir.
Donc si tu te mets en colère, c'est que je dois avoir un peu raison. Mais c'est pas grave. Mais la question, elle n'est pas là. C'est que, d'abord, je vous signale que l'équipe d'Espagne, elle a joué comme elle joue aujourd'hui, bien avant. Dans les années 80, elle jouait comme ça, sous l'impulsion du Real Madrid et surtout du Barça, et elle ne gagnait pas. Donc, c'est bien joué n'est pas un gage de forcément de victoire. Mais moi, je ne me mets pas à la place des joueurs. Moi, je me mets à la place des spectateurs. Et je me mets même à la place.
Bah oui.
Alors je sais pas si JB est supporter d'un club ou pas d'un club.
Bah oui, du Paris Saint-Germain.
Je me mets simplement à la place d'un spectateur qui est presque bon. C'est rare quand ils sont totalement neutres. Mais au prix où maintenant sont les spectacles qui sont que sont les matchs de football. Que ce soit la Coupe du Monde, Championnat d'Europe, on ne va pas revenir sur le prix des billets et tout, ce sont des spectacles. Et messieurs, je suis désolé, mais c'est vrai que je ne pensais pas que Walid Regragui ou que Didier Deschamps fassent exprès de ne pas faire des spectacles, mais ils ont, eux, des priorités.
Bien sûr.
Mais permettez-moi de penser qu'un spectateur qui a dépensé 100, 150 euros, 200 euros ou davantage, ouais, pour aller voir un match de football.
Il a envie de voir du spectacle.
Davantage,
ben oui.
Ils prennent davantage plaisir.
Allez.
À voir un Paris Saint-Germain de la deuxième partie de saison 25-26, ou de la première partie 25, que de la première partie 24-25.
Bah, c'est pas vrai.
Donc
c'est pas vrai.
Allez, le verdict de JB, Jean-Michel, termine
rapidement. Je dis simplement que l'un n'empêche pas l'autre et que gagner, c'est très bien. Et que gagner en donnant du spectacle, c'est encore mieux.
JB, qui remporte ce procès alors?
Merci Jean-Michel, parce que Jérôme a totalement oublié ce qui fait l'importance de la popularité du foot, c'est que le foot est regardé par des gens, et que les gens, qu'ils soient spectateurs ou téléspectateurs, viennent voir du spectacle. Et effectivement, je comprends que Jérôme préfère voir des 0-0 ou des 1-0.
Ah non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Hein.
Plutôt.
Mais c'est pas ce que j'ai dit.
Plutôt que de voir des matchs gagnés par l'équipe de France 5-3, 5-4.
Ouais.
On nous a enlevé notre émotion avec la VAR. On n'est plus capable de fêter un but. On nous enlèverait l'émotion et le plaisir de voir.
Ah bah on verra la prochaine fois qu'une équipe perd trois matchs de suite et que tout le monde dira aux joueurs: venez devant la tribune pour vous excuser.
Tu sais, on a perdu 5-4, on a perdu 5-4 contre l'Espagne en finale de la Ligue des Nations.
En demi-finale.
Ou en demi-finale.
Ouais.
Putain, on s'est régalé, hein.
Et merci JB. Et c'est donc Jean-Michel qui
on perd, mais on joue bien. On perd, mais on joue bien.
Et JB, demande aux Marocains, aux supporters marocains qui suivent la CAN, s'ils gagnent dimanche, ils vont faire la rabat-joie en disant: oh, mais on a mal joué, hein.
Juge impartial.
Et l'Argentine qui a galéré à gagner la Coupe du Monde 2022 au Qatar.
Allez.
Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont
victoire
mal joué.
Victoire de Jean-Michel Larquet dans ce procès. Rapidement, le handball, c'est la mi-temps entre la France et la République tchèque à l'Euro. Procès, hein. Nicolas Paul Orsi.
La France est devant de 6 buts, 20-14 pour les Bleus dans ce premier match de l'Euro.
Merci Nico, à tout à l'heure. Dans un instant, un invité dans Rotten sans flamme, le tout frais retraité. Mamadou Sakho avec nous, à tout de suite.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h48 sur RMC, on est là dans Roten sans flamme, les 10 dernières minutes de la première heure de Roten sans flamme avec le Allo Jérôme, et on va recevoir une des légendes du Paris Saint-Germain, Mamadou Sakho. Dans un instant, il est en coulisses et il arrive, vous inquiétez pas, on est avec Jean-Michel Larquet, avec Steve Savidan et avec Benoît Boutron. Et Benoît, après 19h,
on parlera du Real Madrid. Est-ce que c'est un club inentraînable?
Défaite,
élimination en Coupe du Roi face à Albacete, 17e.
Il a dit que c'était de sa faute, donc ça va.
Ouais. Non, c'est pas la faute des joueurs.
Non. Tu perds contre une Ligue 2, mais non.
Allez, un vrai Parisien avec nous tout de suite.
RMC, Roten sans flamme.
Je viens un peu, Varane, la frappe de Evra, elle est repoussée. Ah, oh, t'as les pieds de Van Gundera. Oh non, dans les pieds de Pogba. Oh non, peut-être dans les pieds de but. Et le but, les voilà, les voilà. Le but de Sakho. Le but de Sakho sur la frappe de Ribéry. Mamadou Sakho. Mamadou Sakho.
Mamadou Sakho.
Il a mis le but, je sais pas comment il a mis.
Heureusement, il a pas enlevé son maillot.
Ah ouais, heureusement.
Allô Jérôme.
Mamadou Sakho, capitaine du Paris Saint-Germain à 17 ans, héros de l'équipe de France lors du barrage face à l'Ukraine, qui a annoncé sa fin de carrière lundi soir avant le coup d'envoi du derby PSG-PFC, est en direct dans Roten sans flamme, Jérôme.
Salut Mamad.
Salut, comment ça va?
Salut Mamad, bienvenue.
Bon. Merci.
Meilleurs vœux, hein, Mamad, hein, déjà. Hein.
Merci beaucoup à vous aussi.
Écoute, bon. La santé à la famille et à toi. Mamad, t'as annoncé ta retraite. Est-ce que c'était prémédité? Est-ce que c'est sur un coup de tête? Et comment tu vis depuis que t'as annoncé ta retraite?
Non, bah c'était pas sur un coup de tête. J'essaie toujours d'anticiper les choses, hein, dans ma humble carrière. J'ai eu la chance de pouvoir vivre de ma passion pendant pas mal d'années. C'est vrai qu'il y a 3-4 ans, j'ai commencé à préparer l'après en créant donc du coup mes sociétés basées aux Émirats, donc Sakho Properties, hein, qui a pour but avant tout d'accompagner les sportifs de haut niveau pour préparer leur après carrière en investissant dans l'immobilier. Et puis voilà. Ensuite, j'ai après mon aventure à Montpellier, j'ai joué un an en Géorgie. J'avais 2 ans de contrat, mais vu que mes boîtes, j'allais dire, prenaient un peu plus d'ampleur, donc j'ai décidé de raccrocher sereinement, tranquillement, en étant fier du parcours.
T'as raison. En gros, t'es gavé, c'est pour ça que t'as arrêté. Voilà. Bon, bah, c'est très bien. Non, je plaisante.
Non, c'est même pas gavé. C'est juste que voilà, j'ai réellement conscience de la chance que j'ai pu avoir de vivre de ma passion pendant 19 ans. Ouais. J'ai voulu faire 20 ans, mais voilà, quand j'ai lancé mes boîtes l'année dernière, par la grâce de Dieu, ça se passe très bien. Donc voilà, il faut. Moi, j'aime faire les choses bien et rester focus. Donc
Mamad.
Voilà.
Mamad, l'hommage. Rendu par le Paris Saint-Germain, j'imagine, t'as fait énormément plaisir, toi, le Titi parisien, celui qui est fier d'être parisien. Comment t'as vécu ça aussi? J'imagine qu'il y a beaucoup de remerciements par rapport au Paris Saint-Germain là-dessus.
Bien sûr, je l'ai vécu. Ouais, j'étais honoré. Après, comme je dis, on vient tous de quelque part. Moi, c'est Paris, c'est la capitale. Je représente la capitale et sa banlieue, et c'est aussi une fierté de pouvoir sensibiliser et surtout montrer un petit peu le chemin à la nouvelle génération, de se dire que voilà, on peut venir des quartiers de Paris et atteindre son rêve, et voilà, pouvoir jouer au Parc des Princes, pour moi c'était quelque chose dont je rêvais dès mon plus jeune âge, et aujourd'hui pouvoir annoncer officiellement lors du match en plus PSG Paris FC, sachant que j'ai commencé au Paris FC entre mes 7, 8 ans jusqu'à mes 12 ans, et j'ai été repéré au Paris FC. Et donc c'est pour ça que je dis, sans le Paris FC, pour moi le PSG n'existe pas dans mon histoire de vie, tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui j'étais très fier de pouvoir l'annoncer, surtout devant ma mère, hein, qui est encore là, et j'ai pas la chance, enfin j'ai perdu mon père à l'âge de 13 ans.
Ouais, c'est vrai.
Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui était cool à vivre. Et merci aux supporters, merci au club, merci à Nasser, merci à tous les coachs que j'ai pu avoir pendant toute ma formation, et c'est ce qui
ils m'ont permis. Puis tes adversaires aussi, Mamad.
Alors vas-y Steve, justement, t'as un bon souvenir.
Puis tes adversaires, Mamad. Ouais. Bah Mamad, moi j'ai fait son premier match en tant que capitaine du PSG.
Ah, c'est vrai, c'était à Valenciennes, ouais.
Ouais. Parce qu'il voulait repartir avec les Titi, et moi je me rappelle, j'étais un joueur qui était quand même beaucoup plus vieux que lui, et je vois arriver cette équipe et ce capitaine avec ce regard, et je dis, on va se faire déglinguer par des jeunes.
Ce qui
était, et on avait fait 0-0, ça avait été très dur. Et je crois que t'avais fait un peu courir quand même, un petit peu quand même, même malgré mon âge quand même.
C'est vrai que tu m'avais donné un peu de fil à retordre. Mais non, c'est vrai que c'était un moment sympa, et surtout que que nous, on avait été champion de France l'année d'avant, des moins de 18. Bon, j'étais.
Et t'avais toujours ta voiture sans permis à ce moment-là ou pas?
Exactement, exactement. J'avais ma voiture sans permis.
Elle faisait du bruit, la voiture, je te confirme.
La teuf.
Je suis arrivé dans le groupe professionnel avec une humilité vraiment très très simple. Je suis tout jeune, je suis mineur, donc je viens en voiture sans permis pour éviter de venir avec un chauffeur, etc.
Mamad, à l'époque, t'avais la voiture sans permis qui coûtait le plus cher au monde.
Bah, remarque, Jérôme, toi aussi, t'as
été mis dans les jantes.
Ah, c'est vrai. Jérôme, toi aussi, t'as mis la voiture sans permis.
Oui, mais pour une autre raison. Et un autre âge.
T'es pas obligé de le dire, ça, Mamad.
Mamad, on est obligé de te parler de ce souvenir incroyable qu'on a tous, un souvenir commun. On entendait Jean-Michel au commentaire. On peut d'ailleurs lancer Jean-Michel sur son souvenir. France-Ukraine 2013. Tes deux seuls buts en équipe de France, mais qu'est-ce qu'ils ont été importants. 29 sélections, cette victoire 3-0. Jean-Michel, tu t'en souviens comme si c'était hier de se doubler de Mamadou Sakho au Stade de France.
Ah oui, parce qu'il venait de nulle part. Il y a eu des doublés comme ça dont on se souvient. Celui-là, on s'en souvient. Alors, la question essentielle, Mamad, c'est est-ce que tu l'as marqué de la rotule ou d'autre chose?
Non, je l'ai marqué du genou.
Du genou, ok.
Ouais, le genou, c'est la rotule, hein,
Oui, c'est ça. Ouais, je l'ai marqué du genou. Mais en fait, cette victoire-là, après la défaite du match aller, vous pouvez demander à tous les joueurs au vestiaire le lendemain. J'ai dit, les gars, je vais aller au Brésil. On va aller au Brésil, peu importe la manière, on va y aller. Impossible de laisser l'équipe ukrainienne aller au Brésil. C'est que nous, on est en vacances. Donc en fait, on avait une détermination qui était juste sans faille. Et ce jour-là, c'est vrai que j'avais un regard assez dur, déterminé, mais j'avais un regard de guerrier. C'est tout. J'étais sûr de moi. J'étais sûr de nous. J'étais sûr du public, et c'était à la maison, et pour moi, voilà, on pouvait pas nous retirer cette Coupe du Monde chez nous, c'était pas possible.
Et dans la préparation, alors tu vois, peu importe, je sais pas si tu te rappelles de la préparation du match par l'entraîneur, mais est-ce que c'est vous qui vous êtes pris en charge ou bien
comme très souvent avec Didier Deschamps.
C'était les deux. Non, franchement, c'était les deux. Après, c'est vrai qu'il y a eu. C'est là où on a vu les joueurs qui en avaient, les joueurs de caractère, tout simplement. Et ça a commencé à l'entraînement deux jours avant, quand il y avait une conservation et que j'ai commencé à mettre pas mal de tacles. Certains joueurs disaient mais doucement. Je me suis tourné. J'ai commencé doucement.
Ouais, c'est pas le moment d'y aller doucement.
Vendredi, ceux qui sont pas prêts pour mardi, je crois que c'était mardi, ils le disent tout de suite. En fait, les gars, ça va être la guerre et il faut commencer maintenant. Donc, voilà,
combien de buts tu as marqué dans ta carrière, Mamad?
Franchement, je ne compte
deux.
Pas.
Arrête de lui faire le
mot. Non, je plaisante. Mamad, moi j'ai une question pour toi, Mamad, parce qu'il y a une autre image marquante dans ta carrière quand on y repense. C'est le premier adieu au Parc des Princes avec ses larmes incroyables quand tu signes à Liverpool. Toi, tu l'as connu, ce PSG en difficulté. Tu as aussi connu le début du PSG version Qatari. Est-ce que ça fait partie des regrets de ta carrière de te dire j'ai dû quitter ce PSG, j'aurais pu rester et gagner de grands titres avec mon club de cœur?
Très sincèrement, aucun regret. Aucun regret. Le choix, je l'ai fait en âme et conscience. Le PSG m'a proposé de prolonger mon contrat à cette époque-là, avec 4 ans ou 5 ans par la suite. Non, je ne regrette pas. D'ailleurs, je suis en train de préparer un documentaire où je raconterai un petit peu toute ma carrière. Mais non, le choix, à ce moment-là, je ne le regrette pas du tout. J'ai eu la chance de pouvoir gagner tous les titres avec le Paris Saint-Germain, sauf la Ligue des Champions. Et c'était mon objectif, la Coupe de France, le championnat, etc. Donc, aucun regret. Ouais. Je suis parti fièrement. J'ai joué fièrement pour mon club, pour ma ville, devant tous mes amis et devant toute la capitale. Donc non, franchement, aucun regret sur tous mes choix.
Bon, de toute façon, tu peux pas avoir de regret quand tu signes à Liverpool, à Anfield, avec l'ambiance, le club qui est représenté comme ça en Angleterre. Franchement, c'est compliqué avec tout ce que tu avais accompli déjà au PSG. Donc c'est normal que t'aies pas de regret. En tout cas, t'as pas à en avoir.
En tout cas, pour ma part, oui. Après, voilà, il y a d'autres joueurs qui avaient joué dans d'autres clubs et ils sont venus au Paris Saint-Germain. Moi, j'ai fait le chemin inverse. J'ai commencé au Paris Saint-Germain et, comme tu as dit, Jérôme, j'ai eu la chance de pouvoir jouer à Liverpool aussi, qui est l'un des plus gros clubs d'Europe. Ah, et pareil, j'ai vécu des moments exceptionnels là-bas. Donc, très très fier de ma carrière et le message vraiment que je veux faire passer aux plus jeunes, c'est de se dire que rien n'est impossible, parce que jeune, j'avais tout pour ne pas réussir. J'ai vécu dans la rue, j'ai vécu dans des détente, j'ai fait la manche, etc. Donc j'avais pas de contact, j'avais rien. Mais quand j'ai eu l'opportunité d'intégrer le centre de formation du Paris Saint-Germain, je me suis accroché, j'ai travaillé dur, j'ai écouté et au final, j'ai eu la chance de pouvoir faire la carrière que j'ai faite. Donc voilà, vraiment rien n'est impossible. Vivez vos rêves à fond, travaillez, allez à fond dans votre secteur et voilà. Et à la fin, vous avez rien à regretter.
Exactement, Mamad. Un beau message et je tiens vraiment à te féliciter de ta carrière parce que tu peux en être fier comme tu l'as dit. Elle était magnifique et nous on s'est côtoyé un peu dans le vestiaire aussi. Donc voilà, toujours un moment particulier quand il y a un mec avec qui tu as partagé des moments de vestiaire qui s'arrête. Ben non, parce que c'est un moment important dans une vie. La carrière de footeux représente énormément de choses et la plus grande partie de ta vie. Donc bravo et bonne continuation.
Merci beaucoup.
Merci Mamad, à bientôt.
Merci à toi aussi, hein, parce que quand on est arrivé dans le vestiaire à l'époque, je me souviens, je crois que je te l'avais dit, quand tu es arrivé dans le vestiaire, j'ai vu Jérôme, mais je sais pas, au début, j'étais pas trop fan, tu vois, je me suis dit, peut-être que c'est un mec un peu relou. Non, mais c'est vrai. Et après, franchement, j'ai passé des saisons exceptionnelles avec lui. Je sais pas, je t'ai embrassé, je t'ai dit, tiens, Jérôme, au début, toi, je sais pas pourquoi, tu sais, j'avais un a priori sur toi. Mais franchement, c'est un mec en or, donc reste comme t'es.
C'est gentil, c'est
prends soin de la famille.
Pas trop ma
barbe quand même. Ouais, c'est gentil, ma
barbe. C'est sincère.
Toi, t'as changé d'avis. C'est pas le cas de tout le monde.
Merci, ma barbe.
Merci, ma barbe.
Allez, je t'embrasse. Bisous.
Ciao. Merci à Mamadou Sakho, un grand moment. Allez réécouter ça si vous avez loupé le début.
Surtout la fin. Remettez-vous la fin, c'était magnifique.
Allez, on parle du Real Madrid dans un instant. Est-ce que c'est un club inentraînable? 32-16, à tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.